fait bien de le dire. C'est-à-dire aussi, pour répondre à ta question, j'ai oublié un aspect, c'est que il est aussi possible, par exemple, qu'un enfant est gravement malade, la famille amène cet enfant au chaman et le chaman ne réussit pas à guérir l'enfant, l'enfant meurt, mais le chaman peut être tué. Hein. Il peut y avoir des... ça va pas être fait directement, ça peut être fait par le sorcier, justement. Et là, il y a justement aussi tout un phénomène terrible auquel j'avais pu assister. C'est les évangélistes, dont j'ai pas parlé, et qui sont une catastrophe au niveau des peuples traditionnels. C'est qu'en fait, ils sont absolument contre les chamans, donc ils ont énormément de pouvoir, ils ont énormément d'argent, ils sont souvent payés par les compagnies pétrolières, c'est souvent les figures de... les éclaireurs des compagnies pétrolières. Donc ils ont l'argent, ils offrent des centaines de dollars à des personnes, rien que pour être évangélisés. Ils vont payer les armes, c'est des acheteurs d'armes, vraiment. Et il y avait eu deux cas où les chamans avaient été sauvés au dernier moment parce qu'ils avaient allumé des bûchers. Les évangélistes dans les communautés indiennes avaient réussi à convaincre les Indiens des communautés que les chamans étaient des sorciers, et les chamans avaient eu la vie sauve, mais vraiment in extremis. Donc il y a aussi les évangélistes, et les évangélistes vont mettre de l'huile sur le feu. S'il y a pas, un chaman n'a pas réussi à guérir quelqu'un, l'évangéliste va en rajouter une couche. Quoi. Là, c'est vraiment très problématique, là, les évangélistes.
Et chaman et chef de village, c'est souvent mélangé?
Pas du tout.
Il y a toujours, toujours... le chaman ne sera jamais chef de village?
Non. Non, c'est vraiment d'un autre ordre.
Ça peut pas...
Non, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pour ça que les hommes qu'on voit avec des couronnes de plumes et qui viennent parler, c'est pas des chamans. Hein. Il peut arriver qu'un chaman ait le don de la parole et quitte son peuple pour être en éclaireur en Europe, mais c'est des politiques. C'est ceux qui vont se charger de la politique, ce qui est une noble tâche aussi. Mmh. Hein. Mais très souvent, les gens voient arriver ces Indiens avec des couronnes de plumes, des attributs de la forêt et pensent que c'est des sages ou des guérisseurs. C'est des hommes de parole, c'est des ambassadeurs en fait. C'est important de le dire parce que c'est pas pareil quoi.
Ouais, c'est vraiment important.
Et la politique, c'est quand même la dualité. Les chamans, souvent ils sont pas dans la dualité.
C'est un mot de
la fin. Oui, il faut bien rentrer, il faut bien.
Ah, moi j'ai lu Dans la montagne d'argent, parce que j'ai pas pu avoir ça sous la main.
Ouais.
Et j'ai beaucoup aimé aussi.
C'est un autre monde, mais c'est en fait tout un monde chamanique aussi.
Oui, oui.
Ouais.
Et votre écriture, j'ai trouvé que c'était vraiment.
C'est atroce, la montagne d'argent, c'est atroce.
Ah, oui.
Ouais, c'est malheureusement la réalité aussi.
On fait notre petit tour.
On fait le tour.
Par qui on commence?
Bah forcément, pas moi. Non, mais moi, déjà merci vraiment pour ce récit, le récit de ton expérience immersive que j'ai trouvé absolument fascinant. Voilà, j'étais assez subjuguée. c'est l'expérience que tu me racontes, ça me renvoie vraiment à la capacité de revenir à une forme de savoir un peu inaugural, finalement, un peu inné, intuitif, qui demande une sorte de qualité de présence et d'écoute et d'être assez incroyable, ouais, avec laquelle on est un petit peu déconnecté, nous. Et voilà, comme si tout était un peu renvoyé à sa source. Et ce qui m'a marqué, oui, c'est cette identification radicale à tout ce qui est censé être autre, quoi. C'est ce concept de l'unité qui peut être rééclatée, mais qui est toujours là quelque part. Voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup.
Merci.
Ouais, moi, je vais juste dire merci aussi pour cette passion là qui fait vivre, et puis pour ce livre aussi. Ouais. Je pourrais dire sans doute mes choses, mais ça m'a changé.
Moi, je vais me précipiter pour acheter le livre. Moi, ce que j'ai beaucoup admiré, c'est cette simplicité que tu as dû avoir pour t'introduire, pour te faire accepter par ces gens si différents quand même de nous. Je suis admirative parce que voilà, c'est remarquable. Voilà, merci.
Ça me fait penser à... Tu disais pour l'intelligence que par rapport à la situation du chaman, par rapport à la prise de parole et tout ça, et je rebondis sur ça par exemple, sur ces temps sacrés de parole, et ça nécessite une observation très, très importante pour pouvoir s'immerger dans des milieux comme ça, être accepté. C'est déjà avoir vraiment une tendance à pouvoir s'ouvrir et observer, hein, je pense. Hein.
Il faut être une belle personne sensible
pour
côtoyer comme ça. Je trouve ça...
Oui. J'ai adoré la métaphore avec le serpent aussi. Une question, là,
c'est bon. Je suis peut-être la seule à pas l'avoir.
Bref, beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup.
Moi, je ne peux dire que ça. Merci, j'étais vraiment... Je vais acheter le livre.
C'est une bonne affaire.
Si, parce que vous dites ça avec tellement de simplicité. Je vous avez vécu quelque chose d'énorme et vous le dites avec une simplicité incroyable. Comme si c'était facile presque. Alors ça ne l'était pas, je pense.
Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de faire des choses qui sont contraires à soi-même. Oui. Mais en fait, moi, je vous assure que je pense que ce que j'ai vécu, tout le monde peut le vivre. Hein, parce que c'est cette humanité, on a tous ce même shungu, justement. Et moi, j'ai des enfants, j'aime aider à la cuisine. J'apprends à écraser avec un mortier, bon, maladroitement, certes, mais c'est une occasion pour être avec les personnes. Et quand on est avec des personnes aussi belles, aussi, et qu'on vit dans un endroit aussi incroyable...
Mais c'est vrai qu'ils étaient remarquablement accueillants. D'après.
Exactement. Mmh. Et en fait, ben, on n'a qu'une envie, c'est donner un coup de main, c'est être là. Et en fait, tout est prétexte, parce que tout apprend. Tout est une leçon, hein. Parce que les femmes, elles papotent tout le temps. Quand elles vont faire la cuisine, quand elles vont écraser, quand elles vont porter les choses, elles racontent tout le temps des histoires. Mmh. Et puis en plus, elles sont curieuses de tout. Elles me demandent, moi, elles sont aussi très contentes d'avoir quelqu'un qui leur raconte comment c'est de l'autre côté. Et comment on fait les enfants, comment il est ton mari, et tout fait rire aussi. Et moi aussi, mes questions... Donc en fait, c'est super simple. C'est super simple. Et franchement, je suis quelqu'un de très maladroit en plus, comme je vous disais. Il m'appelle mon surnom en quechua, c'est Taruga Iskai Chaki Warmi. Ça veut dire la biche à trois pattes. Je me casse tout le temps la figure.
La biche à trois pattes.
Et à chaque fois, parce qu'à chaque fois quand ils m'appellent comme ça, c'est parce qu'ils ont en tête, ils ont encore dans leur mémoire, à un moment où ils m'ont vu me prendre une gamelle pas possible, donc chaque fois ils rigolent un petit peu de ça. Non, c'est franchement, sincèrement, c'est tout simple. Et c'était ça aussi, c'est que moi dans ma tête, avant de les rencontrer, je me faisais tout un monde de ce que c'est.
Et en fait, beaucoup.
On a tellement de choses en commun finalement. On a les mains en commun, on a tout en commun et de se mettre simplement avec, voilà, bien évidemment il y a plein de différences et effectivement faut pas non plus idéaliser. Il n'y a pas un monde idéal. Ils sont aussi, je vous parlais des l'alcool. Le dimanche, moi, j'avais beaucoup de mal. J'avais qu'une envie, c'était sortir du village, parce que c'est systématique là. Le dimanche, pour les hommes, c'est boire et de voir les femmes qui passaient leur temps à les servir, parce qu'ils demandaient en fait à chaque fois la bière de chicha. Ça me déprimait quoi. J'avais envie d'aller ailleurs et y a vraiment des problèmes et des choses magnifiques partout quoi.
Voilà, j'ai trouvé très intéressant et je trouve très intéressant que ce soit enregistré parce que j'ai pas pris de notes, j'ai été un peu fascinée. Du coup, je vais pouvoir écouter des petites choses. Voilà. Et ce qui m'interroge toujours, moi, c'est un petit peu le fait qu'on raconte, enfin, surtout quand on assiste par exemple à des initiations, à des cérémonies, etc., et qu'on les raconte. Je sais que, bon, ben, j'ai entendu parler des choses sur les Dogons, etc., et qu'après, le fait qu'on aille raconter des choses alors qu'on a été, on a eu la confiance un petit peu pour assister à des rites, etc., et qu'on aille les raconter, eh bien, il y a des gens, après, on leur met des maléfices sur eux, parce qu'ils vont raconter à leur
trahison.
C'est une trahison. Et je trouve qu'il y a toujours ce... Alors bon, je ne sais pas si là, il y a eu des cérémonies vraiment... Parce que ce partage, effectivement, de la cuisine, des mains, des blagues, tout ça, ça c'est super. Mais quand il y a quelque chose de plus intime, traditionnel, secret, et qu'on nous fait l'honneur de nous permettre d'y assister... C'est pas pour qu'on le raconte, quoi.
Je suis d'accord.
Et il y a toute cette ambiguïté-là.
Je suis entièrement d'accord.
C'est compliqué, quoi.
Mais en fait, moi je suis entièrement d'accord, et ça, c'était aussi au cœur de mon questionnement. Mm. Et en fait, c'est peut-être aussi une des différences entre l'écrivain et l'anthropologue. C'est qu'en fait, moi, ce qui m'a importé, c'était de dresser les tréteaux de ce lieu de connexion. C'est-à-dire d'essayer le mieux que je pouvais de faire exister la scène. Mais après, ce qui se passe dans l'initiation, c'est jamais raconté. Mmh. Parce que, en fait, ce qui est important, c'est que chaque lecteur, d'une certaine façon, en étant dans les conditions du personnage, puisse aussi vivre... En fait, avec un ami écrivain, l'autre fois, on a eu une super discussion. Et en fait, on a compris quelque chose sur l'écriture, donc je vais vous le partager, parce que c'est tout frais. Mmh. C'est qu'en fait, on est là, vraiment, notre rôle, c'est de préparer les ingrédients pour une expérience que vous devez vivre, vous. Et qu'en fait, si on délivre... On parlait d'un phénomène, parce qu'on est tous les deux aussi auteurs de BD, et il y a un phénomène qui a été vu, qui avait été remarqué par un type qui avait fait un mémoire sur Hergé. Il parlait de la case manquante, la case vide. Il prend les plus grands lecteurs d'Hergé, les plus grands spécialistes de Tintin, et il leur dit, est-ce que vous pouvez me décrire la case que vous préférez dans votre album préféré de Tintin ? Et vous me la décrivez, mais précisément, vous me la dessinez, vous... Et en fait, ils ont tous décrit une case qui n'existait pas. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le dessin, la bande dessinée, a créé en eux un phénomène où, en fait, ils se font des images entre les images. Et c'est pour ça que l'histoire devient vivante. Et en fait, on parlait de ça avec cet ami, et on s'est dit, mais c'est ça le rôle du romancier. Le romancier doit toujours être dans l'ellipse. Mmh. Comme disait Rilke, porter ses questions. Mais si tu apportes les réponses, ou si tu délivres le contenu d'une initiation, tu tues la grenouille, elle ne pourra plus sauter. Mmh. Et en fait, ce qui est important, c'est que tu la décrives pour que la personne se sente grenouille et comprenne ce que c'est que ce déploiement. C'est ça qui est important. Et c'est en ça que ça devient une expérience partagée. C'est, en tout cas, je ne dis pas qu'on y arrive, mais en tout cas, on s'est dit, c'est ça qu'on veut faire.
Sauter les grenouilles.
C'est ça qu'on veut oui. essayer. Et c'était passionnant de réaliser, parce qu'on se rend compte très souvent que quand on écrit un roman, on doit après effacer ses traces. Parce qu'en fait, on a écrit... Et puis d'un seul coup, on revient, on se dit « Ah non, on en a trop dit, là !» Là, on en a trop dit, on a tout déployé. En fait, on a cette intention, on va vers quelque chose, mais là, non. Là, maintenant, c'est le lecteur qui doit faire le chemin. Et c'est aussi cette confiance. Et j'ai une autre anecdote aussi qui est une histoire incroyable, c'est que le premier roman que j'avais écrit, c'était l'histoire de mon père. C'était il y a des années, ça s'appelait Bleu Figuier. Et il y avait un moment, une scène où je parlais de ma grand-mère dans un appartement à Paris et il y avait un poêle. Et j'avais travaillé comme une folle pour la description du poêle, une scène avec le poêle, etc. Et tout. Puis en relisant mon chapitre, je me dis, oh ben non, bon, je me suis donné du mal, mais franchement, le poêle, on n'en a pas besoin, quoi. Et donc j'enlève le paragraphe sur le poêle. Il y avait, j'avais écrit. Deux ans plus tard, je vais faire une dédicace et j'ai un lecteur qui vient me voir et qui me dit « Ah, j'ai bien aimé votre passage sur le poêle. » Et je dis « Où ça ? À quel endroit ? » Il me dit « Mais avec la grand-mère, là. » Et en fait... Il avait fait le phénomène de la classe manquante. J'avais travaillé les paragraphes avec le... Mais il l'avait senti, ce poil, alors qu'il n'y était plus.
C'était génial.
Et en fait, c'est ça. Et c'est vrai. Et c'est super important de ne jamais raconter, et encore moins un rituel, quoi. Quelque chose d'absolument sacré. Et puis, on tuera tout. Qu'est-ce qu'on peut raconter ? C'est irracontable.
Didier, oui, ce que tu veux dire sur la poésie et l'art de suggérer, c'est Mallarmé a des mots magnifiques là-dessus. Suggérer l'idéal, enfin.
Ouais.
Mais bon, moi, ce que j'aime, bon, c'est l'authenticité, l'unité, la coïncidence de l'objet et de la langue pour le dire. La coïncidence de toi et de ton livre, du livre avec le chaman, enfin, tu reconstitues l'unité chamanique. Bon, et je suis en état d'admiration perpétuelle.
Bah merci, ouais, moi j'ai fait un beau voyage aussi, donc bien sûr je vais acheter, l'offrir à Ouais, du coup, je trouve aussi c'est important la question de faire passerelle avec le livre. Parce que nous, on est quand même là, du coup, dans des sociétés où la question de la nature du rituel, elle est cruellement absente.
Tout à fait.
Je trouve que c'est bien, du coup, de voir, de pouvoir en ramener un petit peu, qui nous en transmettent à travers le livre. Puis du coup, moi, ça me... Alors, bon, rien à voir entre guillemets, hein, et quoique... Ça me confirme mon idée, parce que toujours je suis obsédée par mon idée de thèse, là.
Bien sûr. Tu peux redire le sujet.
Là, c'est sur la création des dispositifs, de dispositifs groupaux dans le post-cancer. Et en fait, c'est des gens qui ont approché la question de la mort, qui vont peut-être d'ailleurs récidiver et mourir, on ne sait pas. Hein. Donc, il faut qu'ils fassent avec ça. Et comment se réparer? Et puis, bah. Moi, j'ai fait plein des groupes de parole, j'en ai fait. Je fais des groupes avec des photos de photolangage, inventer plein de trucs. Et là, le premier truc que je trouve qui fonctionne vraiment bien, je le fais depuis 2 ans, c'est... Alors, c'est pas la forêt, parce qu'à Lyon, il n'y en a pas. C'est le parc de la Tête d'Or. Mmh. Mais c'est la nature, voilà. Exactement. Et donc, je vais marcher avec les patients au parc de la Tête d'Or avec un chien. Et je n'ai jamais vu un groupe qui rendait les patients aussi bien. En fait, ils vont mieux, ils sont plus déprimés, ils sont en forme, ils sont contents de venir, ils loupent jamais. Moi, je ne sais pas bien ce que j'y fous, en fait. Et je vois bien qu'il y a quelque chose du côté... Ils s'intéressent aux arbres, ils s'intéressent à la lumière, ils s'intéressent aux couleurs, aux chiens qui peuvent être complètement... tout ce qui est du côté de la pulsion de vie. Et je me dis, tiens... eux, ils ont compris quelque chose. Enfin, voilà, je pense que j'aurais à comprendre quelque chose de ce que les dames, elles disent quand elles disent « Heureusement qu'on a la forêt. »
Exactement.
Voilà.
Mais dans une société traditionnelle, tes patients, c'est des apprentis chamans. Mmh. Parce qu'ils ont traversé la proximité de la mort, ils ont traversé déjà l'initiation. Mmh. C'est-à-dire, tu vois, ils seraient chez les Warani, Kampere, ils leur diraient, tu veux, c'est quoi ta direction, quoi. Et ils sont détenteurs
de quelque chose.
Qui est même pas valorisé dans la société.
Non, au contraire. Ils sont dévalorisés.
Exactement. Alors que dans les sociétés traditionnelles, ils sont, on les appelle d'ailleurs roku. Ça veut dire, ça peut être la personne qui a les cheveux grisonnants, mais c'est aussi le sage. Mmh. Tu vois, les personnes. On va écouter quelqu'un qui a une. Tu vois, qui a été très malade et puis qui revient et puis qui parle, les gens vont. Alors là, tout le monde se tait pour l'écouter, hein, on va pas passer à côté. Hein.
Bon, en tout cas, merci.
Oui.
Je vais peut-être dire un mot, puis je te donnerai le mot de la fin. Je te remercie aussi, on a fini par arriver à organiser cette soirée. Bon, moi je crois que tu as fait œuvre d'ethnologue là, en faisant ce travail. Enfin, moi je le conçois comme ça. Et du coup, ça nourrit beaucoup ma réflexion là-dessus. Parce que qu'est-ce que l'anthropologie? Pour moi, c'est redonner, c'est parler du monde et du coup lui rendre ses perspectives en fait. Et parfois, on a l'impression que l'anthropologie fait un peu l'inverse, quoi. Elle étrique un peu les choses dans un formalisme académique. Alors peut-être qu'il faut faire ça, mais il ne faut pas abandonner cette idée de redonner au monde cette dimension. Et pour moi, c'est le travail de l'anthropologue aussi. Et du coup, comment on fait pour écrire, comment on fait pour redimensionner le monde dans un bouquin, dans un écrit, je crois que c'est une possibilité que tu nous livres là. Et moi, j'aime bien cette idée, effectivement, de préparer le lecteur à une expérience. Je trouve que le travail de recherche, ça ne s'arrête pas à l'écrit d'un chercheur. Le travail de recherche, je crois que c'est ce qu'on essaye de mettre au débat ici. Pour moi, le travail de recherche, c'est offrir à un lecteur de se mettre en route, de se mettre en mouvement et de contribuer du coup par sa pensée à la recherche au sens large. Quoi. Mm-hmm. Ce qu'on appelle la méthodologie mouvementée. L'idée, c'est de...
C'est magnifique comme idée.
C'est que le chercheur est là pour... il a la responsabilité de cette mise en mouvement qui le dépasse et qui inclut le lecteur. Et...
Il faut se réveiller, les gens.
En gros, ouais, c'est...
Ouais. Mais c'est de recréer une interaction, c'est-à-dire que... Moi, il y a un livre qui a été très important, je ne sais pas si tu l'as lu pour moi aussi, par rapport dans ces passerelles entre anthropologie et écriture, c'est « Pourquoi la Terre s'est tue ?» de David Abraham pour une écologie des sens. Alors ça, c'est vraiment un livre que je vous recommande à tous parce que... C'est un des livres les plus importants pour moi de ces 5 dernières années. Pourquoi la Terre s'est tue? Vous allez vous régaler. Pour une écologie des sens. Et justement, c'est toutes ces passerelles qu'il y a entre nos deux mondes, entre le monde occidental et le monde animiste. Et pour vous mettre en gourmandise...
Pourquoi la Terre
s'est tue? Pourquoi elle s'est tue? Ouais. Pour une...
T-U-E.
Et pour une écologie des sens. Et lui, c'est un anthropologue. C'est un anthropologue américain. Il s'appelle David Abraham. Et en fait, il décide de travailler sur le chamanisme. Alors, je ne sais plus si c'est en Birmanie ou... Mais il ne sait pas comment rencontrer des chamans. En même temps, pour être étudiant, pour payer ses études aux États-Unis, il est devenu prestidigitateur. Et en fait, il travaille comme prestidigitateur dans des restaurants, un peu partout. Et comme ça, il gagne sa vie. Il se dit, mais... Je vais utiliser la prestidigitation pour rencontrer les chamans. Et il part comme ça, comme un nomade sur les routes. Alors, je ne sais plus si c'est Birmanie, mais c'est un pays comme ça. Et il part sur les routes et puis il se met dans les places de village, puis il fait des tours. Et on lui envoie tout de suite le chaman. Ça marche hyper bien. Il réussit à faire sa thèse. Et en fait, il commence le livre comme ça. Et c'est le récit de cette interaction avec le monde, c'est complètement ce dont on parle ce soir. Vous allez aimer ce livre, vraiment. Ça.
Les chamans étaient quand même suspects, justement, de faire des tours de passe-passe, des tours de magie. Et
tout
c'était certainement des personnalités qui avaient des dons de ce type-là,
exactement.
Qui impressionnent les autres, que tout le monde n'a pas.
Exactement. C'est ça. Et lui, en fait, en faisant le... Ils disent, mais peut-être qu'il a aussi des dons à l'intérieur, alors on va le mettre en...
David Abraham.
David Abraham, pourquoi la terre s'est
tue ? Pourquoi la terre s'est tue ?
Ok. En tout cas, merci beaucoup.
Merci, vraiment.
Moi, je voudrais juste rajouter comme petit mot de fin, c'est que... En fait, après avoir fait ce voyage, et donc je continue, j'ai une petite maison là-bas, j'y vais tous les ans, très régulièrement. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette expérience dans la forêt m'avait permis de regarder la forêt d'ici différemment, et le peuple d'ici différemment. Et qu'en fait, je me rends compte aussi la beauté et je vous dis ça parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens profondément. C'est qu'en fait, on a tendance aussi à se flageller parce qu'en fait, la terre souffre énormément et on vit dans un endroit où la terre est vraiment abîmée, où on nous parle sans cesse de fin du monde, de tout ce qui se passe, en fait, de choses quand même qui sont lourdes. Mais moi, je ne cesse de voir des gens magnifiques et des gens qui sont aussi extrêmement connectés avec la terre et des forêts qui sont... aussi, elles sont moins foisonnantes, c'est pas des forêts premières, mais c'est des forêts qui sont aussi super vivantes. Et il y a aussi des guérisseurs ici, et il y a aussi, voilà, et en fait, ça m'a rendu plus sensible encore aux beautés, et, en fait, qui a de ce côté du monde. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire.
Mais la forêt, c'est un bon remède contre la mélancolie, en fait.
Ouais.
Ok. Oui.